magazine de la contemporaine. Dans quelques minutes, j'aurai donc le plaisir d'accueillir la compositrice Hun Sung Shin, qui est à l'affiche du Festival d'automne ces jours-ci, avec notamment une série de concerts qui ont lieu vendredi et samedi prochain, ici même à la Maison de la Radio. Hun Sung Shin est venue en Europe il y a 30 ans pour travailler avec Jörgi Ligeti en Allemagne, et elle s'y est installée depuis lors, tout d'abord à Hambourg, puis à Berlin. Ligeti lui-même avait fait le voyage une trentaine d'années plus tôt, d'est en ouest, de sa Transylvanie natale et de la Hongrie, sous tutelle du réalisme socialiste, vers l'Allemagne de l'Ouest. La réédition cette semaine du Ligeti Project, paru à l'origine chez Teldec, permet de se souvenir de ce passage de frontière en 1956 pour Ligeti, et par la même occasion de pouvoir écouter sur pièce là d'où venait le compositeur, notamment à travers une œuvre antérieure, son concerto roumain, qui date de 1951, encore très marqué par les musiques traditionnelles de Transylvanie. En voici le premier mouvement, noté Andantino, enregistré en 2001 par le Philharmonique de Berlin sous la direction de Jonathan Nott. Le premier mouvement du concerto roumain de Ligeti, une partition de jeunesse de 1951, ici par le Philharmonique de Berlin, dirigé par Jonathan Nott. C'est un extrait de ce coffret de 5 disques, le Ligeti Project, réédité cette semaine par Warner. On y trouve de belles versions, de nombreuses partitions par le Schönberg Ensemble, par Pierre-Laurent Aimard, le oboïste Heinz Holliger, le violoniste Frank-Peter Zimmermann, avec à chaque fois des textes du compositeur lui-même sur ses œuvres. C'est tout à fait recommandable. « C'est lors du reportage cette semaine, Pierre Rigaudière a rencontré le compositeur François-Bernard Mache, qui fait l'objet d'un grand colloque international à la fin de la semaine et dont l'ouvrage « Musique, mythe, nature » vient d'être réédité.
En 1983, c'était encore dans le domaine de la création musicale dite savante, le règne du rationnel, du système, du langage musical, comme on disait. Et donc une excursion un petit peu en dehors de cette perspective qui donnait un poids à l'histoire et au langage d'abord, une excursion que je proposais dans ce livre vers le mythe, c'est-à-dire tout de même quelque chose de beaucoup moins rationnel, et vers le monde animal. Tout cela était difficile à entendre, mais finalement, l'ouvrage a quand même eu une destinée assez bonne par rapport aux publications musicologiques qui, de toute façon, ne concernent pas un public énorme. Ce qui m'intéressait dans le mythe, c'était qu'il soulignait tout ce qui, dans la création musicale, n'est pas d'ordre historique. C'est-à-dire la part de naturalité de la musique. Alors que ça, c'était évidemment une chose qui était difficilement admise par la plupart des lecteurs. Non seulement la musique était un monde de l'artifice, purement humain, mais un monde où cet artifice avait acquis une liberté infinie et où créer de la musique, c'était en somme définir un arbitraire personnel. Je pensais que c'était en partie une erreur, en partie seulement parce qu'il est évident que la dimension culturelle dans l'espèce humaine a une importance et une place considérable par rapport aux autres espèces vivantes, mais le fait que j'introduise la référence à d'autres espèces vivantes dans le monde de la musique, c'était ça qui était le scandale principal. Et en même temps, l'intuition dominante, et si je faisais le lien entre mythe et nature, c'est-à-dire entre des récits mythiques et des observations biologiques, c'est que je voulais rappeler qu'il y a dans la création musicale une part naturelle, c'est-à-dire que le jeu avec les sons existe dans le monde animal et qu'il existe à un autre niveau et à une autre complexité chez l'homme. Ça n'avait pas été dit et c'est loin d'être encore admis universellement. Mon attitude implique une remise en cause de l'humanisme traditionnel, c'est-à-dire l'homme maître de la nature, et finalement s'en détachant et acquérant sa liberté grâce à ce détachement. Moi, j'ai pensé que la liberté humaine pouvait être acquise non pas contre la nature, mais avec. Et je crois que ça, c'est un nouvel humanisme qui aujourd'hui prend une importance particulière. C'est-à-dire que je n'ai pas immédiatement converti à mes points de vue les musiciens, enfin pas très facilement en tout cas, mais je me suis aperçu qu'il y avait une convergence avec des attitudes de pas mal de chercheurs. Je pense à des gens comme Descola ou comme Dominique Lestel, pour qui l'animal n'est pas seulement une source de plaisir bucolique, disons, mais quelque chose d'extrêmement révélateur et nous obligeant à reconsidérer finalement la hauteur du piédestal sur lequel l'humanité s'est installée trop longtemps. C'est-à-dire que la naturalité de l'homme est maintenant un fait dont on essaye de s'accommoder. Lorsqu'on découvre des ressemblances extrêmement étroites entre des cultures dont on n'a aucune raison de penser qu'historiquement elles ont pu communiquer, à ce moment-là, on est peut-être fondé à chercher des explications d'ordre naturel, c'est-à-dire d'ordre biologique, entre autres. Et j'ai montré que si depuis longtemps on s'est aperçu que les mythes, que l'imaginaire mythique avait des ressemblances étonnantes entre des cultures différentes, on pouvait se demander si l'équivalent n'existait pas en musique. Et je pensais qu'un certain nombre de traits de l'organisation musicale entre des cultures étrangères étaient tout à fait parallèles à la ressemblance entre des mythèmes constatés depuis Fraser un peu partout. Grande méfiance à l'égard des systèmes et des analyses musicales qui présentent des constructions qui semblent fonctionner bien sur le papier mais que l'oreille ne ratifie pas. Moi je suis plus empirique et j'ai pris le risque quelquefois de l'anecdotique, comme aurait dit Pierre Schaeffer. Pierre Schaeffer pensait qu'on ne peut se servir de sons enregistrés qu'à condition de les déconnecter de leur source. Sinon on les perçoit comme des signaux et non pas comme des signes symboliques. Et j'ai pensé de façon précoce que c'était une vue à laquelle il ne fallait pas adhérer trop fort parce que il y a une possibilité de perception symbolique même de signaux triviaux. Et ça, c'est tout de même une chose qui est apparue dans le monde artistique depuis le début du XXe siècle. Après tout, les objets trouvés, intégrés par les peintres avant même la guerre de 14, participaient de cet état d'esprit de découverte et non pas d'invention de l'art. Découverte, c'est-à-dire extraire par un nouveau regard ou une nouvelle écoute du monde environnant des possibilités de valeurs symboliques. On admet depuis toujours que le jeu existe chez l'animal. Il y a, en particulier chez les mammifères, évidemment, il y a des mammifères extrêmement joueurs. Tous les petits sont joueurs et même les adultes, les loutres par exemple, font des compétitions de glissade qui sont amusantes. Mais ce qui m'intéressait, c'était justement de voir quel était le sérieux du jeu et de considérer que la culture humaine, de manière générale, est un enrichissement de l'instinct du jeu. Et le jeu avec les sons est en effet présent chez certaines espèces animales. C'est ainsi que je propose de considérer le chant d'automne des oiseaux, un moment où ils n'ont plus à faire leur nid ni à défendre leur territoire. Alors les biologistes ont une vision généralement sceptique à l'égard de mes propositions parce que pour eux, même si effectivement il n'y a pas d'enjeu évident, il s'agit de mémoriser pour l'année prochaine le répertoire individuel ou des choses comme ça. Je ne conteste pas évidemment ces interprétations, mais je les considère comme insuffisantes. Je pense que chez les espèces d'oiseaux en particulier, dont le répertoire est essentiellement constitué d'imitations d'autres oiseaux, l'affirmation d'une virtuosité dans le maniement des citations peut être plus facilement rapprochée d'un bagage culturel que d'un intérêt évident pour la reproduction, qui est la grande affaire, évidemment, dans une perspective évolutionniste. Mes études de linguistique m'avaient habitué à l'idée de distinguer entre la phonétique et la phonologie. Ce que faisait Schaeffer était de type phonétique, c'est-à-dire une collection d'objets sonores considérés en eux-mêmes par leur morphologie propre, mais en dehors du contexte où on allait les utiliser. Or, dans le domaine des sons naturels, le contexte est très important et il suffit parfois d'un contexte musical pour faire apparaître un signal parfaitement reconnaissable comme signal, mais le faire apparaître comme une valeur musicale. C'est ce pari que j'ai fait dans beaucoup d'œuvres mixtes, par exemple. Ça remonte à des impressions d'enfance où il n'y avait pas, c'était pendant la guerre et je n'avais pas ni la possibilité ni l'occasion d'aller au cinéma puisqu'il y avait le couvre-feu le soir. On écoutait donc beaucoup la radio. Et dans la radio, il y avait de temps en temps, sur les ondes courtes en particulier, des discours dans des langues inconnues, incompréhensibles et qu'on pouvait écouter comme une espèce de musique verbale. Et cette impression ramenant la parole d'abord à un jeu sonore, dépourvu de sens, j'ai voulu le retrouver et l'explorer. Et lorsque je m'intéresse à des modèles linguistiques, c'est souvent avec cette fascination superficielle du point de vue scientifique et du point de vue même littéraire, superficielle mais en même temps profond, parce que je pense que la voix révèle quelque chose au-delà de ce qu'elle communique de façon consciente. Donc je me suis intéressé à l'arrière-plan de la voix et à l'arrière-plan individuel, évidemment, mais aussi à l'arrière-plan social, c'est-à-dire que je considérais que chaque langue, chaque système phonétique était une sorte de musique potentielle. Dans Cassandra, lorsqu'il y a des claquements de feu, c'est du grec ancien et c'est ma propre voix chuchotée qui les présente. Donc là, c'était purement un désir de montrer qu'il y a jusque dans la parole humaine quelque chose qui peut crépiter et qui claque même dans des langues sans clic comme le grec ancien. Pour moi, entre le passage Amharic d'Éthiopie, qui est un récit guerrier, ou plus exactement une exaltation des valeurs guerrières, et le récit beaucoup plus paisible, récit n'est peut-être pas le terme d'ailleurs, enfin la récitation plus paisible du Tibétain, c'est pour moi la paix et la guerre, deux attitudes foncièrement humaines, malheureusement l'une et l'autre. J'avais fait venir à la maison une linguiste sud-africaine, mademoiselle Emily Dloulane, qui, à l'époque, militait évidemment pour la fin de l'apartheid. Et donc, je lui ai demandé de réciter des textes dans sa langue, le Xhosa, mais non pas pour leur contenu, puisque moi, je n'étais pas un militant anti-apartheid, j'étais simplement un sympathisant. Donc ça me convenait que ce discours soit une revendication d'autonomie. D'ailleurs, le français est devenu une langue officielle maintenant en Afrique du Sud. Mais à l'époque, ce qui m'intéressait, c'était que c'était une langue à clic et que ces bruits de bouche déterminaient dans le langage la présence de quelque chose qui est dehors de la percussion. Donc le langage mélodique, la mélodie de la parole avait été observée depuis des siècles par les musiciens qui s'en étaient servis. Mais le contenu percussif et rythmique était beaucoup moins étudié, beaucoup moins exploité par les musiciens. Donc j'avais connu l'existence de ces langues à clic et j'avais voulu les transformer en musique, ce que j'ai essayé de faire avec ces enregistrements qu'elle m'a donnés et dont j'ai pu savoir le sens, mais je ne m'en suis pas occupé et j'ai fait des montages qui, du point de vue linguistique, sont incohérents. Un des sens de la musique, c'est pas seulement de rétablir un lien entre les hommes, mais aussi un lien entre l'homme et la nature. Donc, finalement, il y a une recherche que quelquefois j'ai baptisée de l'ordre du sacré. Il y a une recherche d'harmonisation entre ce que fait l'homme et le monde où il vit. C'est-à-dire une interprétation de ce monde qui ne soit pas une interprétation scientifique, mais une interprétation d'ordre spirituel. Il peut y avoir un abus de naturalisme, comme il y a un abus d'historicisme. Et je voudrais me situer sur une troisième voie qui soit, justement, qui évite ces deux excès. Les surréalistes disaient « Parents, racontez vos rêves à vos enfants ». Bon, ben, moi, je raconte mes rêves d'une certaine manière. Et quelquefois, je m'aperçois qu'ils peuvent être partagés. Donc, je ne suis pas complètement pessimiste.
Merci Pierre Rigaudière pour ce reportage qui était mixé par Manu Couturier et réalisé par Marie Groux. J'en profite pour rappeler que l'ouvrage de François-Bernard Mache, Musique, Mythe, Nature, vient donc d'être réédité. C'est chez Adam Musiqué et que le compositeur fait l'objet d'un colloque international. Ça se passe vendredi et samedi à la Fondation Lucien Paille, boulevard Jourdan à Paris. C'est au métro Cité Universitaire. Et il y aura aussi un concert de l'ensemble Accroche-Note, entrée libre, vendredi soir à 20h30.
France Musique.
Bonsoir Aung Suu Kyin. Bonsoir.
Bonsoir.
Et je salue aussi Beate Renner qui va assurer la traduction de l'allemand des propos de notre invité. Vous êtes l'invité du Festival d'automne à Paris, Aung Suu Kyin, ainsi que de la Maison de Radio France. Pour pour quelques concerts qui vont avoir lieu vendredi samedi prochain. Ces manifestations ont lieu aussi dans le cadre de l'année de la Corée en France. Vous êtes installé en Allemagne depuis maintenant une trentaine d'années, depuis 1985, mais vous retournez régulièrement en Corée aujourd'hui.
Ja, ich arbeite seit
je travaille
2006 mit sehr eng mit Maestro Myung-Hun Chung
et étroitement ensemble avec Maestro Hun Chung
Seoul Philharmonic Orchestra zusammen
et avec l'orchestre philharmonique de Seoul
eigene neue Musikserie
et je suis responsable de ma nouvelle série de concerts et j'organise également des classes des masterclass pour les jeunes compositeurs
quasi Composer in Residence eingeladen zu diesem Festival.
Je suis invitée en tant que compositrice en résidence à ce festival et je n'ai non seulement souhaité présenter ma propre musique, mais également la musique de jeunes compositeurs coréens extrêmement talentueux, donc des jeunes compositeurs.
J'imagine que le paysage musical de la musique contemporaine en Corée a beaucoup changé, beaucoup évolué par rapport au moment où vous êtes parti de votre pays.
Ich glaube, also wir haben diese westliche Musik seit über 100 Jahren.
Que nous avons cette musique depuis à peu près 100 ans chez nous en Corée. Au début, on a un peu imité, mais depuis 30, 40 ans déjà, il y a eu en Curé beaucoup de chefs d'orchestre, de compositeurs extrêmement talentueux. Et entre-temps, je peux même affirmer que la Corée a trouvé sa propre vie musicale.
On va écouter quelques extraits de votre musique, bien sûr, ce soir, Eun Suk Shin, tout au long de cet entretien, jusqu'à 22h30. Il y a quelque chose qui, me semble-t-il, revient à votre enfance, à votre jeunesse. C'est cette partition tout à fait étonnante qui s'appelle Gugalon. Ce sont des scènes de théâtre de rue. Alors le mot, lui, Gugalon, c'est pas du tout un mot coréen. Ça vient du haut allemand ancien. Ça voudrait dire faire un tour de passe-passe, accomplir des mouvements un peu ridicules, jouer de quelqu'un avec la magie ou prédire l'avenir. Mais si j'ai bien lu, c'est quelque chose qui vous ramène aussi à votre enfance et au Séoul que vous avez connu dans les années 60, 70.
Oui, cette pièce, cette œuvre, je l'ai composée après avoir visité Hong Kong. À l'époque, on m'a commandé cette œuvre, enfin une œuvre, après une visite d'une ville. Et on m'a prié de bien vouloir transformer au niveau musical cette expérience de cette ville. Donc, j'ai visité Hong Kong, j'avais pas trop d'expectatives, mais j'avoue que cette ville a été très fascinante pour moi, car on connaît bien sûr ces hauts bâtiments, mais ce que j'ai tout d'un coup vu, c'est ce qui se passe entre ces hauts bâtiments. Et il y avait beaucoup de scènes qui dataient d'un autre temps, d'une époque qui a existé dans les années 60 et qui n'est plus. Et cette expérience dans la ville de Hong Kong m'a ramené à mes souvenirs d'enfance. Et ça m'a vraiment fortement inspiré pour cette œuvre. Bien que le mot Gugalon n'est pas du tout correct, certes, ça vient du haut allemand, mais ce n'est pas tout à fait correct. Ça n'a rien à voir avec la musique traditionnelle coréenne, mais il y a tout cet arrière-plan d'inspiration, cette idée de base. Et ça, ça a effectivement à voir avec mon enfance en Corée.
Le premier volet, l'ouverture de rideaux de ces scènes pour un théâtre de rue, pour ensemble, Dunsukshin, ça s'appelle Gugalon, et on pourra retrouver cette pièce en concert samedi prochain, le 10 octobre. Il y a plusieurs manifestations, et cette pièce sera jouée au cours du concert de 16h qui aura lieu au studio 104 ici, à la maison de Radio France, avec le New Ensemble d'Amsterdam sous la direction de Ed Spaniard. Ici, c'était le New York Philharmonic que nous écoutions sous la direction de Alan Gilbert. Unsukshin, dans votre œuvre, il y a une dimension très importante, c'est la dimension vocale. On a beaucoup apprécié il y a quelques années votre opéra sur Alice au Pays des Merveilles. Et vous en donnerez une sorte d'extrait, ça s'appelle Snag and Snarls, et c'est au concert du soir du même jour, du 10 octobre à 20h, cette fois-ci, dans le grand auditorium ici, à la maison de Radio France. C'est quelque chose d'important. Alors, non pas d'enregistrement ici, mais par contre, vous nous avez proposé un enregistrement d'une œuvre qui s'appelle Cantatrix Sopranica. C'est pour deux sopranos, contre-ténors et ensemble, avec plusieurs mouvements de cette œuvre. C'est quelque chose qui appartient aussi à votre monde, ce travail avec la voix de soprano notamment.
Viele Leute haben mich gefragt, warum ich sehr gerne so Stücke für Stimme schreibe,
dann sage ich immer, ja,
weil ich aus Korea
komme, weil Korean aiment chanter. Et je pense, la Corée est le seul pays sur notre planète où les gens sont prêts pour payer, pour entendre les gens chanter. Ils sont même prêts pour pouvoir chanter. Ils vont dans le bar, le karaoké, dans le restaurant et ils chantent. C'est vraiment un truc très drôle. J'adore composer pour les voix. J'adore composer des œuvres vocales. Et cette œuvre que j'aimerais bien présenter
est dans mon
œuvre globale vraiment une œuvre particulière. Cette œuvre traite le thème du chant en soi. C'est donc une œuvre autoréférentielle.
Charakter.
En quelque sorte.
Und es geht ja, handelt sich ja um singen selbst. Also das,
il s'agit donc du chant en soi.
Die Sänger, die versuchen ihre Stimme zu,
les chanteurs
zu polieren
essayent,
und dann die
Musiker, en fait,
die versuchen ihre
ensuite,
Stimme
les instrumentalistes
zu,
essayent
zu,
d'accorder leurs instruments.
Und so weiter.
Et donc tout le monde essaie de trouver ça va, ces accords.
Besteht sieben kleine Stücke
cette œuvre est composée de sept mini-œuvres,
kleine pièces,
et j'aimerais bien présenter trois mouvements de cette œuvre.
Alors dans ces trois mouvements, on entend deux sopranos et un contre-ténor. Est-ce qu'il faut voir dans ce choix du registre un intérêt aussi pour la musique baroque, pour la musique ancienne, ou est-ce que c'est une façon de revitaliser la musique d'aujourd'hui en employant cette voix de contre-ténor qu'on voit de plus en plus dans la musique contemporaine?
Ich wollte für drei Sänger ein Stück schreiben,
écrire,
aber nur drei Frauen, das wäre mir ein bisschen
langweilig.
Ich wollte also drei Stimmen haben, die im Einklang singen können, aber doch also in deren Farbe verschieden sind. Und ich habe also zufällig also zwei wunderbare Zwillingsschwestern, die Sänger sind, und dann auch einen sehr guten Freund, der Contretenor ist.
Und ich habe diese Stimme speziell für diese drei Sänger komponiert. Und ich habe diese drei Chanteurs.
Thank you.
Trois mouvements tirés de Cantatrix Sopranica pour deux sopranos, contre-ténor et ensemble avec les sopranos Anubia Comsi, le contre-ténor David Cordier et l'ensemble Musique Fabrique sous la direction de Stéphane Asbury. C'est bien sûr d'Un Tsuxin que nous parlons, Un Tsuxin qui est notre invitée ce soir dans le magazine de la Contemporaine puisque elle est aussi l'invitée de Radio France avec le Festival d'automne à Paris dans les jours qui viennent, samedi et vendredi prochain, avant de revenir d'ailleurs à la Cité de la Musique, à la Philharmonie, le 27 novembre prochain pour une autre série de concerts. Un Tsuxin, votre musique est totalement habitée par le théâtre. On l'entend ici de manière très forte. On peut sans doute y voir la marque, l'empreinte de votre culture coréenne à l'origine, mais aussi probablement de votre fréquentation avec avec Ligeti, qui a été votre professeur, votre maître, et qui lui était très marqué aussi par le théâtre. On pense aux aventures, aux nouvelles aventures, et puis à son opéra Le Grand Macabre. Est-ce que ces deux influences se sont fondues pour aujourd'hui donner votre propre interprétation de ce qu'est le théâtre dans la musique?
Ja, in meiner Musik gibt es also viele
Facetten, aber il y a beaucoup de facettes, mais une des facettes les plus importantes, c'est cette théâtralité, ce côté dramatique, et cet aspect dramatique dans ma musique est certainement différent de la dimension dramatique de la musique traditionnelle coréenne. Bien sûr, elle aussi est dramatique. Bien évidemment, je suis très influencée par la musique traditionnelle coréenne, mais on ne voit pas cette influence tout de suite lorsqu'on écoute ma musique.
Et
pour moi, c'est en quelque sorte le socle sur lequel je me suis permise de faire épanouir ma propre musique, bien que ma musique finalement est tout à fait différente.
Et est-ce que ça se reflète aussi de la même manière dans la musique instrumentale?
Natürlich ist das anders, also wenn man nur für Instrumente komponiert oder
si
mit Gesang,
pour
man denkt,
les instruments, c'est différent. Man denkt, différent si on compose pour des voix.
Stimme komponiert, also man
si
denkt,
on fait des œuvres
viel
vocales,
stimmig, also mehr also in Linien, aber selbst also wenn ich
Linie,
nur für Instrumente komponiert
oder enfin, d'harmonie,
sehr komplexe Sachen.
Et lorsque trotzdem, je fais des compositions instrumentales, c'est quand même très complexe et très important pour moi, le tempérament d'une œuvre.
Dans votre catalogue figure une pantomime musicale pour ensemble, ça s'appelle Cosmi Gimmicks. On pourra l'entendre d'ailleurs en concert le 10 octobre à 16h dans le concert de l'auditorium du studio 104. Alors c'est la première partie de cette pièce est inspirée très nettement du théâtre d'ombre. La partie centrale, elle doit beaucoup à Samuel Beckett et à son théâtre. Et puis la fin que nous allons écouter, elle, c'est vraiment un hommage avoué à Ligeti.
Ja.
Oui.
Dieses Stück habe ich komponiert speziell für das Ensemble, Ensemble,
composé spécifiquement pour le Nieuwe Ensemble, avec lequel je travaille depuis très longtemps. J'ai un lien très fort avec cet ensemble. C'est vraiment un ensemble de musique contemporaine tout à fait différente des autres ensembles de musique contemporaine.
Ils
ont beaucoup d'instruments à cordes pincées comme l'harpe, la guitare, la mandoline. Et j'ai vraiment souhaité de faire une petite œuvre rien que pour cet ensemble. Et j'avais l'idée suivante. Ces instruments de cordes pincés au centre de l'œuvre et trouver d'autres coloratures. Par exemple, des instruments de percussion et un piano préparé et une trompette très discrète en arrière-plan et un violon. Et finalement, il y a eu cette œuvre.
Cette œuvre
est comment aussi en quelque sorte une œuvre théâtrale, bien que c'est une œuvre instrumentale. Et aujourd'hui, j'aimerais bien vous faire écouter, entendre le troisième mouvement, donc la dernière partie de cette œuvre.
Inspiré par Marcel Marceau.
Cette partie est influencée par Marcel Marceau, par le grand pantomime.
Je nach der Maske,
das Gesicht, selon le masque qu'il porte, il exprime un sentiment différent.
Ça s'appelle Masque, c'est le troisième volet de cette pantomime musicale pour ensemble intitulée Cosmic Gimmicks d'Unsuk Shin que nous écoutions dans l'interprétation du New Ensemble dirigé par Celso Antunes, le New Ensemble que l'on retrouvera en concert samedi prochain ici au Studio 104 à 16h à la maison de Radio France. Unsuk Shin, dans quelques jours plus tard, vous retrouverez aussi les musiciens de l'ensemble intercontemporain. Ce sera pour deux concerts le 27 novembre à la Philharmonie, à la Cité de la Musique, et vous avez eu une aventure passionnante avec eux, avec ce double concerto pour piano-percussion qui a été créé déjà il y a une douzaine d'années, c'était en 2003, avec l'ensemble et deux solistes, Dimitri Vassilakis, le pianiste, et le percussionniste Samuel Favre. Quand on parle de double concerto, on a l'impression qu'on va opposer des éléments, qu'on va jouer sur l'antinomie, sur la contradiction, sur le combat. Or, c'est tout à fait différent ce que vous avez essayé de tenter dans cette œuvre. Vous avez plutôt essayé de jouer la fusion.
Ma collaboration avec l'ensemble intercontemporain dure maintenant depuis 20 ans déjà. Et on a vraiment fait des choses superbes ensemble. Et il y a eu des œuvres très importantes qui ont été générées grâce à cette coopération. Et une de ces œuvres, c'est ce double concerto pour piano préparé. J'ai souhaité faire une œuvre tout à fait différente. J'ai trouvé l'inspiration après mon voyage à Bali. Je fais ce voyage à Bali il y a quelques années avant. Et j'ai entendu pour la première fois les gamelan. Et c'était vraiment l'expérience musicale la plus importante de ma vie. C'était fascinant pour moi. Non seulement la colorature de cette musique à Bali, mais aussi ce dynamisme dans cette musique. Et ces deux facteurs m'ont vraiment beaucoup influencé dans la création de cette œuvre. J'ai souhaité, grâce aux deux solistes, le piano et la percussion, créer cette œuvre. Le piano est préparé avec des éléments métalliques. Donc, les sons du piano ont une tonalité qui ressemble au gamelan. Et ensuite, il y a les percussions, comme je viens de dire. Et il y a ces deux solistes plus l'ensemble intercontemporain et finalement il y a une sorte d'ensemble hyper important, hyper grand de gamelan, et c'était ça mon intention musicale.
On en écoute les premières pages. Thank you. un extrait du double concerto pour piano préparé, percussion et ensemble d'Un Sung Shin avec le pianiste Dimitri Vassilakis et le percussionniste Samuel Favre, deux solistes de l'ensemble intercontemporain et puis bien sûr l'ensemble dirigé par Stéphane Asbury. C'est une expérience tout à fait particulière ici avec cette allusion au gamelan indonésien où l'on sent effectivement une fusion, quelque chose de très organique et une répartition des rôles aussi qui est différent dans la manière de traiter l'orchestre. Mais par ailleurs, vous pratiquez tout de même le concerto de manière plus, j'allais dire, plus classique. Vous avez d'ailleurs signé un certain nombre de concertos, un concerto pour piano, on en entendra un extrait tout à l'heure, qui sera joué vendredi soir au concert, un concerto pour violoncelle, et puis un concerto pour clarinette. Pourquoi tant de concertos? Ce sont des rencontres à chaque fois avec des interprètes, avec des solistes?
Meine Konzerte, die sind in meinem Werkliste, nimmt eine sehr wichtige Stelle.
Sont très importants dans mon œuvre globale. Il s'agit de la virtuosité lorsqu'on parle de concertos. La virtuosité est très importante pour moi. Et cela pour de différentes raisons. D'une part, il faut savoir que je souhaitais devenir pianiste. Et malheureusement, j'ai dû abandonner ce rêve. Malgré tout, j'ai ce désir d'être une pianiste virtuose. Et lorsque je compose, il s'agit finalement aussi de virtuosité.
Das Ganze, was ich habe,
tout ce que j'ai dans mon fort intérieur, je le projette dans ma musique. J'essaie toujours de transcender mes limites, de dépasser mes limites. Et dans mes concertos, il est très important de voir une personne devant l'orchestre. Cette personne fait plus que d'interpréter certaines notes. Cette personne va aussi dépasser ses limites, se transcender. Certaines personnes reprochent d'être mais j'aime voir comment quelqu'un dépasse ses limites et se brûle. C'est la raison pour laquelle j'écris des concerts très vertueux. Thank you.
Troisième mouvement du concerto pour clarinette d'Unsukshin par le clarinettiste Kari Kriku avec l'orchestre symphonique de la VDR. C'est la radio de Cologne sous la direction de Brad Lebman. Unsukshin, vous avez fait allusion tout à l'heure au fait que vous étiez pianiste à l'origine et dans la Corée de votre jeunesse. C'est par l'intermédiaire des sonates de Beethoven que vous avez rencontré la musique occidentale, en particulier, dites-vous, avec la 8e sonate. Pourquoi la 8e ? C'était un hasard d'écoute ?
Quand j'étais enfant, à l'âge de 4 ans, j'ai commencé à jouer du piano. J'étais autodidacte. Je n'avais pas une formation formelle. Je me suis apprise tout, toute, et dans les années 60-70, en Corée, il y a eu de graves problèmes économiques et notre famille était très pauvre. Mes parents n'ont pas eu les moyens pour me donner une formation musicale formelle. Et c'est la raison pour laquelle je me suis auto-formée. Quand j'avais 12-13 ans, j'ai décidé de devenir compositrice, car je me suis dit, ça revient moins cher.
Et Beethoven, la 8e sonate, quand elle est arrivée dans ce paysage.
Ça s'est passé avant. Lorsque j'ai eu 7 ans, j'ai regardé la télévision chez une amie, on a regardé ensemble un film et j'ai entendu la 8e sonate pour la première fois. Je n'ai pas du tout su qui en était le compositeur. J'étais tout simplement fascinée. Et pendant un an, j'ai essayé de savoir qui a composé cette musique.
Alors, est-ce que cette conception beethovenienne est restée ancrée dans votre esprit ou est-ce que c'est simplement le déclic pour vous?
Je ne saurais pas vous dire. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Beethoven fait partie des compositeurs importants pour moi.
Alors quand vous travaillez par exemple dans votre concerto pour piano, dans le troisième mouvement, sur un nombre de motifs absolument ahurissants, c'est presque à l'opposé de ce que faisait Beethoven qui lui prenait un seul motif pour le travailler.
mindestens ein Motiv.
Ja, also mein Klavierkonzert, das hat also mit Beethoven gar nichts zu tun.
Pianou Narina war avec Beethoven.
Und also das besteht aus vier verschiedenen Sätze.
Œuvre est composée de quatre mouvements. Et aujourd'hui, je souhaite vous faire écouter le troisième mouvement, qui est composé de 30 fragments environ. Et je les ai accolés, ces 30 fragments, et de temps en temps, il y a une colonne porteuse qui est composée de 2-3 accords, et cela représente la structure de cette œuvre.
C'est aussi une dimension très importante dans votre musique, ce côté un petit peu ludique, où vous jouez avec les éléments.
Oui,
c'est très important pour moi, cette dimension ludique et l'humour et aussi le sarcasme.
Thank you. le troisième mouvement du concerto pour piano d'Unsuk Shin, le pianiste Sunwoo Kim avec l'orchestre philharmonique de Séoul, sous la direction d'un chef que l'on connaît bien dans cette maison, Myung-Moon Chung. Ce concerto sera donné en concert vendredi soir, le 9 octobre, avec d'ailleurs le même interprète. Sunwoo Kim, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, Unsuk Shin?
Ja, Sonok ist also für mich also der
Kim.
My favorite pianist.
Ist für mich mein Liebling. Pour moi, le pianiste, le préféré. Et il a interprété mon concerto déjà trois fois. Et il y a même eu des enregistrements. Et ici, il va aussi interpréter mes études le week-end. C'est vraiment très difficile. Je m'en réjouis d'avance.
Précisément, donc, le 9, le 10 octobre et puis le 27 novembre, vous auriez un certain nombre d'œuvres qui vont être jouées. Est-ce que c'est important pour vous de faire une sorte de, comme ça, de point d'étape sur votre œuvre, de réécouter un certain nombre de, d'opus de votre catalogue sur un temps rapproché?
Ja, also für mich ist das natürlich eine sehr große Ehre.
Pour moi, c'est vraiment un très grand honneur d'être invité ici et qu'on présente pas seulement une de mes œuvres, mais tout un spectre de mon œuvre globale. En tant que compositrice, c'est vraiment une expérience particulière. En tant que compositrice, j'ai rarement l'occasion de pouvoir présenter tant d'œuvres.
Vous habitez à Berlin depuis de nombreuses années. Est-ce que la dimension urbaine joue quelque chose dans votre inspiration? Par exemple, dans cette pièce qui s'appelle Graffiti, est-ce que cette forme de palimpseste, d'empreinte sur les murs de la ville, a quelque chose qui aspire aussi votre musique?
Vivre à Berlin est vraiment une expérience fantastique. J'y vis depuis 27 ans à Berlin. Et je pense que je ne quitterai jamais cette ville.
Vous êtes arrivé avant la chute du mur.
Oui, je suis arrivé avant la chute du mur, avant la réunification. Et depuis, beaucoup de choses ont changé profondément. Mais Berlin est vraiment une ville unique au monde. C'est vraiment une métropole et malgré cet aspect de métropole, cette ville a le charme d'un village. Il y a une offre culturelle immense et en plus, il y a un milieu social très stable, très tranquille et il se passe beaucoup de choses au niveau culturel à Berlin. Et ce qui m'inspire le plus, c'est justement ce mélange. Berlin, c'est pas comme Munich. À Berlin, il y a toutes sortes de facettes. Il y a des riches, il y a des pauvres, il y a beaucoup de personnes étrangères, des gens différentes qui font des choses différentes. Donc, il y a toute une dynamique qui se crée. Et pour moi, c'est très important. Et l'œuvre graffiti que vous allez entendre maintenant, écoutez maintenant, est peut-être le résultat de ce genre d'inspiration. J'aimerais bien vous présenter le troisième mouvement, Passacaglia. Il y a certains accords dans ce troisième mouvement qui sont le thème de base et il y a de petits fragments qui s'y rajoutent.
Et alors, est-ce qu'on peut voir dans ce graffiti, dans cette passacaille, une sorte d'allusion à l'histoire, à la mémoire? La passacaille, après tout, c'est une forme qui est revenue en vogue au XXe siècle, chez plusieurs compositeurs. Et puis aussi, cette idée de la mémoire qui se surajoute comme des strates, comme des couches, comme dans une ville.
Passacaglia
est pour moi une forme, certes, qui a un certain âge, mais elle n'est pas enfermée dans une certaine formalité. On peut faire quelque chose de nouveau. C'est différent comme une sonate ou une symphonie. Thank you.
La Passacaille de Graffiti, pièce pour ensemble d'Otsouchin, ici dans la version de Musique Fabrique, dirigée par Peter Rundel. Ce Graffiti, c'est une pièce qui sera reprise en concert dans quelques jours à la Philharmonie, à la Cité de la Musique. Ce sera le 27 novembre. Je vérifie. Graffiti. Je ne vois plus le graffiti. Enfin, ce sera repris dans les jours qui viennent, cette pièce. Il y a aussi, d'ailleurs, au cours de ces concerts, Unsukshin, des commandes ou bien des créations que vous avez commandées avec le Festival d'automne à Dongshin, par exemple. Ça s'appelle Yo. De quoi s'agit-il ?
Est un concert pour Cheng. Cheng est un instrument qui a 3000 ans. C'est une harmonica traditionnelle coréenne. J'ai composé cette œuvre il y a 6 ans et j'étais inspirée à nouveau par mon enfance. Lorsque j'étais enfant, j'ai entendu une fois cet instrument à l'extérieur. Ensuite, je n'ai plus jamais entendu la musique de cet instrument. Et finalement, plus tard, à Berlin, lorsque j'ai pu rencontrer le grand instrumentaliste Cheng Wei, j'étais vraiment fascinée par sa virtuosité. Et je lui ai promis tout de suite, j'écrirai une œuvre pour toi. Et finalement, il y a eu une commande de la part de la Central Hall. Et je lis les deux événements et en 2009, il y a eu la première mondiale à Tokyo. Donc l'idée pour cette œuvre était la suivante. J'ai souhaité mettre le chant au centre de l'œuvre et chaque groupe instrumental était censé représenter un chant plus grand et l'orchestre était le super chant et cet orchestre était censé être avec l'instrumentaliste principal en fait encore plus grand.
Et puis on entendra aussi au cours de ces concerts une autre pièce pour Cheng et Ensemble. C'est une commande de l'Orchestre Philharmonique de Séoul. Ça s'appelle Into. Et le compositeur, c'est Jeongyu Park, je prononce difficilement.
Jeongyu Park est un compositeur jeune, mais très doué. Il est coréen, donc je travaille beaucoup avec l'Orchestre Philharmonique de Séoul. J'ai ces masterclass dont je vous ai parlé. Je voudrais que le compositeur coréen compose non seulement pour les instruments occidentaux, mais aussi pour des instruments asiatiques. Ce n'est pas parce que je serais peut-être compatriote, non. Il faut sentir cet élan intérieur pour composer une telle œuvre. L'instrument Cheng est très intéressant pour des jeunes compositeurs. Il y a beaucoup de virtuoses du Cheng en Corée. Et ils vont en Chine pour se perfectionner sur cet instrument. Il y a beaucoup de jeunes compositeurs qui s'intéressent beaucoup à cet instrument du nom de Cheng. Sunyoung Park a composé une œuvre pour Cheng et pour Petit Ensemble et ce samedi, il y aura la première mondiale de cette œuvre.
Et on se quitte donc, non pas avec cette œuvre qui sera créée cette semaine, samedi, mais avec un extrait de votre pièce Chou pour Cheng et Orchestre, avec Wu Wei Cheng, et c'est l'Orchestre Philharmonique de Séoul, de nouveau, sous la direction de Wong Mung Chung. Thank you. Un extrait de Shu, pièce pour Sheng et orchestre d'Unsuk Shin, avec Wu Wei en soliste, Sheng, et l'orchestre philharmonique de Séoul sous la direction de Myung Woon Chung. Merci beaucoup, Unsuk Shin, d'avoir accepté notre invitation ce soir.
Merci.
Et bien sûr, je vous donne rendez-vous vendredi soir et toute la journée de samedi. Il y aura aussi, au milieu d'après-midi, une rencontre avec Unsuk Shin. Et puis, donc, toute une série de concerts dans le cadre du Festival Automne à Paris. Et un peu plus tard, on se retrouvera aussi à la Philharmonie le 27 novembre. Et ces concerts seront d'ailleurs diffusés dans cette émission sur France Musique chaque lundi dans les semaines à venir. La semaine prochaine, nous diffuserons un concert que nous avons enregistré au Festival Musica avec la création d'une pièce pour deux pianos et électronique de Philippe Manoury. Et puis je recevrai dans le magazine une autre compositrice qui était aussi à l'affiche du Festival d'automne, c'est Olga Neuwirth. Merci à Léa Racine qui nous a aidé à préparer cette émission, à Marie Grou pour la réalisation, à Beate Renner pour la traduction. Et ce soir, nous étions en compagnie de Adelino Mello, Antoine Giraud et Julie Queroux. Vous écoutez France Musique, il est 22h30, c'est l'heure des communiqués.